Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre place. Voilà. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Celles et ceux que je n'ai pas vus, je vous souhaite tous mes voeux pour la nouvelle année 2018. Donc nous allons faire une restitution le plus synthétique mais le plus quand même complète possible du colloque sur l'institutionnalisation du syndicalisme. De quoi parle-t-on ? En introduction, pourquoi cette question a-t-elle fait l'objet d'un colloque organisé dans le cadre d'un partenariat avec le laboratoire Triangle de l'Université de Lyon 2 les 16 et 17 novembre 2017 ? Il faut pour cela en resituer l'origine. Nous sommes donc le 14 octobre 2015. Le CCN de la CGT se réunit à Limoges dans le cadre des initiatives célébrant le 120e anniversaire de sa création. Ce CCN est exceptionnel dans le sens où il n'a pas pour vocation d'être une réunion statutaire où se traitent des questions d'actualité, mais plutôt celle de réfléchir à partir de plusieurs sujets fondamentaux. Comme l'a exprimé Maryse Dumas en introduction à ce CCN, l'objectif était d'interroger notre histoire à partir des préoccupations du présent et avec la volonté de construire des réponses d'avenir. La majorité des sujets faisaient l'objet de contributions d'universitaires servant d'introduction au débat. Ainsi, Michel Pigenet a fait un retour sur les principes fondateurs de la CGT. Sophie Béroux, qui est à la table à côté de moi aujourd'hui, a introduit le débat sur la CGT face aux évolutions du salariat. Et c'est par la voix d'Eliane Bressol que Stéphane Sirot a apporté sa contribution sur l'institutionnalisation du syndicalisme. Dans le cours de ces débats, cette question a amené tant de controverses et de passions dans les échanges qu'il a semblé important que par un travail sur l'histoire, notre institut, dans un travail collaboratif avec des universitaires, historiens, sociologues et politistes, et des militants syndicaux, poursuive et approfondisse ce sujet. Et de là est né le lancement du colloque de Lyon. Ce colloque a subi un handicap majeur dans son déroulé par le fait que le jour de sa programmation ait coïncidé avec une mobilisation nationale dans le processus de lutte engagé contre la loi travail et pour un code du travail du 21e siècle porté par la CGT. De ce fait, au regard de la richesse et de la qualité des communications, nous avons décidé, en collaboration avec Sophie Béroux, qui fut notre interlocutrice au sein du laboratoire à Triangle, de réaliser cette brève restitution en attendant la publication officielle de l'ensemble des communications qui paraîtra dans plusieurs mois. En préambule, il est important de rappeler le contenu de l'appel à communication préparatoire à ce colloque pluridisciplinaire. Tout d'abord, le bornage des travaux. La décision fut prise de cibler principalement une période couvrant la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, pour nous arrêter en 2007, et donc juste avant la loi dite de modernisation du dialogue social, qui est mieux connue dans le monde syndical sous l'acronyme de loi sur la représentativité, adoptée en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Néanmoins, dans la suite du colloque, une table ronde CGT fut consacrée à l'analyse d'une période plus récente. Cette problématique n'a rien de nouveau. Le mouvement syndical s'est toujours appuyé de façon conjointe sur des pratiques de mobilisation et sur des formes plus instituées. On peut même affirmer que le syndicalisme s'est constitué au cœur de cette tension. Le développement des conseils des prud'hommes à partir de 1806, avec l'apparition des syndicats, la reconnaissance de la forme des syndicats en 1884, accompagnée d'une assignation par le politique au seul domaine professionnel, l'instauration de la représentation du personnel par des délégués du personnel à partir de 1936, puis la représentation directe par le syndicat mais exclue du lieu du travail jusqu'à 1968, sont autant d'évolutions dans la reconnaissance du syndicalisme qui l'ont de fait institutionnalisé. Conscient de l'actualité du problème, l'ambition de l'IHS-CGT et du laboratoire Triangle était d'explorer la complexité du problème et l'ambivalence des processus. Dans certaines périodes de l'histoire, l'institutionnalisation a été synonyme de reconnaissance du fait syndical et a entériné de nouveaux droits. Dans d'autres périodes, et dans celles que nous traversons, elle a peut-être vécu comme un enfermement du syndicalisme dans des pratiques de dialogue et de concertation au contenu extrêmement limité en matière de négociation et contribué à marginaliser les actions syndicales plus directes. Ainsi, l'institutionnalisation peut être perçue comme une forme d'intégration au système dominant et d'acceptation de celui-ci, mais refuser toute participation aux institutions de représentation, à quel niveau que ce soit, et notamment dans le cadre du paritarisme, risque de créer aussi une mise à la marge de l'organisation syndicale. Nous le voyons dans l'étude historique, mais aussi sociologique et politique de ce phénomène complexe. Il est important de restituer des controverses qui ont pu entourer l'investissement des syndicats dans différentes institutions en fonction du lieu d'intervention, des terminologies utilisées, des pratiques à l'œuvre. Il est également essentiel dans cette étude de faire varier les échelles d'observation, l'entreprise, les branches et secteurs d'activité, le niveau national et interprofessionnel, les cadres institutionnels dans la fonction publique et entreprise publique ou dans le secteur privé, sans oublier les instances internationales. Un autre facteur était également primordial, c'est celui de la période afin que les communications éclairent des moments particulièrement significatifs. Les années 45-47 avec le gouvernement provisoire de la République française n'ont rien à voir avec les années 50 et la guerre froide, avec d'un côté le syndicalisme réformiste tirant une partie de sa légitimité aux intégrations aux institutions, et de l'autre, le syndicalisme de classe qui est marginalisé. Le moment de 68 est important avec les effets de reconnaissance de la section d'entreprise et des délégués syndicaux. C'est aussi la période où le patronat va repenser les modalités de l'institutionnalisation en lien avec les pratiques managériales nouvelles, en réaction d'ailleurs à mai 68. Le colloque de Lyon a été divisé donc en 5 séances que nous allons essayer brièvement de résumer aujourd'hui. La séance introductive, qui vous sera présentée par Sophie Bérou, avait pour intérêt de définir la notion d'institutionnalisation. C'est une manière de poser le décor sur différents plans par rapport aux origines du syndicalisme, par une approche politique de cette notion, par une comparaison européenne et par la définition d'une démarche syndicale. Je vais essayer ensuite de vous résumer les séances 2 et 3, nommées des outils pour la conquête de nouveaux droits au sens interrogatif, et jeu d'échelle, lieu et niveau de pouvoir. Enfin, Sophie présentera les séances 4 et 5 intitulées « Les usages syndicaux des institutions, formes d'intégration et d'exclusion, pratiques et trajectoires », puis derrière la valorisation du dialogue social, une autre logique d'institutionnalisation. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sophie Bérou qui va vous présenter la première séance.
Merci beaucoup, puis merci d'avoir organisé comme ça une restitution de ce colloque. Donc, on a eu le plaisir d'accueillir à Lyon. Alors, comme Gilbert l'a dit, il s'agit moins de vous présenter un compte-rendu exhaustif des différentes séances que d'essayer de dégager des éléments de réflexion utiles pour l'action syndicale et qui permettent d'alimenter des questionnements et des débats que nous aurons dans la deuxième partie de cet après-midi. Alors, le colloque a débuté effectivement par une séance introductive qui nous avait semblé importante pour tenter de baliser cette notion d'institutionnalisation, même si nous l'avions déjà fait dans l'appel à communication, mais parce qu'on sentait bien que si on partait d'emblée sur un certain nombre de contributions sur des études de cas, on aurait peut-être du mal à se mettre d'accord sur ce qu'on entendait derrière pour appréhender ce processus d'institutionnalisation. Toute son ambivalence. Ça nous paraissait vraiment important d'essayer de cadrer un petit peu cette notion, d'essayer d'apporter des éléments de définition, de nourrir pour nourrir ensuite les échanges lors du colloque. Et donc, pour cet effort de définition, on a eu recours à une perspective historique, celle proposée par Stéphane Sirot, une perspective plus sociologique, même si qui s'appuie aussi sur des éléments d'histoire, bien sûr, que j'ai prise en charge. Et comparative avec l'apport d'Udo Rehfeldt, qui est chercheur à l'IRES, et je vais y venir, qui a beaucoup travaillé sur les cas italiens, sur le syndicalisme italien et le syndicalisme allemand. Enfin, un retour réflexif sur les pratiques syndicales, et un moment clé, important, dans l'histoire récente de la CGT, sur la place de la Confédération et son usage possible des institutions, au tournant des années 90-2000, qu'a présenté Maryse Dumas. Alors, je vais prendre le temps de présenter en détail cette première séance. J'essaierai d'être plus concise par la suite, mais là encore, parce que ça me semble important sur les enjeux de définition. Alors, Stéphane Sirot, il avait pour mission, en ouvrant le colloque, de traiter de la période 1884-1945, donc la période en amont de celle qu'on avait balisée pour le colloque. On s'est un peu battu sur les dates pour ce colloque, mais ça nous semblait là aussi indispensable de voir quand même de revenir en amont de notre séquence historique pour réfléchir hein, au processus historique d'institutionnalisation, pour essayer de voir les héritages aussi, hein, qui existent en 1945, en fait. Ça nous semblait utile pour comprendre comment le syndicalisme s'est constitué, en fait pérenne, hein, c'est-à-dire comment aussi il a survécu à ses premiers fondateurs, hein, comment les organisations demeurent après ceux et celles qui les ont créées, en fait. C'est là le sens premier du mot « instituer », hein, c'est s'inscrire dans la durée, en fait. Donc, Stéphane Sirot est revenu sur le contexte de la loi de 1884, hein, contexte qui est bien connu, avec du côté politique, mais je crois que c'est important de le rappeler, du côté des républicains opportunistes, la volonté, hein, de, à la fois de donner une surface institutionnelle au syndicalisme, hein, premier syndicat, pour essayer d'encadrer un petit peu les luttes sociales, avec une volonté de circonscrire l'action syndicale, d'en délimiter les frontières. Je crois que c'est un geste fondateur sur lequel on est obligé de revenir, parce qu'il dit beaucoup, hein, de la façon de définir le périmètre du syndicalisme, en finalement attribuant, et peut-être qu'on en discutera après, puisque je crois que c'est des choses qui sont sans doute remises en cause dans la période contemporaine, attribuant en politique le monopole de l'intérêt général, et donnant aux syndicats la défense d'intérêts particuliers, d'intérêts bien délimités, hein, les intérêts économiques et sociaux dans, des travailleurs. Alors, ce qui est contesté à l'époque, là je vais très vite parce que ce n'était pas notre objet, par le syndicalisme révolutionnaire, hein, mais ce qui nous intéressait, c'est aussi comment ce premier moment d'institutionnalisation du syndicalisme essayait de transformer des rapports de force en rapports de droit. Et cette volonté, elle est extrêmement forte, hein, du côté des acteurs politiques. C'est aussi un usage de cette loi, c'est la première reconnaissance, hein, la loi sur les associations, c'est 1901, ça vient plus tard, hein, façon de donner une surface dans l'espace public, hein, mais en même temps, hein, de vraiment contrôler, d'encadrer cette forme syndicale. Donc une forme d'institutionnalisation comme forme de contrôle, hein, et en même temps, ce que je viens de dire, cette reconnaissance du syndicalisme dans l'espace public, cette première reconnaissance du syndicalisme dans l'espace public. Sur la suite de la période donc, qu'il avait à couvrir, hein, Stéphane Sirot a insisté donc, sur ce processus progressif d'inclusion des syndicats dans l'ordre institutionnel. Alors, un processus qui reste limité, hein, avant 1945. Il montre comment cette institutionnalisation est synonyme de conquête d'espace dans la sphère du travail, d'espace qui n'existait pas, de nouveaux espaces de représentation dans la sphère du travail, hein, conquête de droits. Ces espaces, ils peuvent être concédés dans des périodes qu'on pourrait qualifier d'autoritaires, hein, en raison d'un contexte singulier, c'est le cas pendant la Première Guerre mondiale, hein, qui, en raison de l'effort de guerre, hein, de l'union sacrée, il faut produire, hein, il faut que les armes sortent des usines, et c'est la reconnaissance des premiers délégués dans les usines de guerre, hein, en 1917. Ce sont des espaces aussi dans la sphère du travail, conquis grâce aux luttes sociales, grâce aux rapports de force, à l'existence d'un rapport de force, c'est évidemment le cas pendant les grandes grèves de mai-juin 36, mouvement social de mai-juin 36, qui aboutit, parmi d'autres résultats, à la reconnaissance des délégués du personnel, donc à l'instauration de cette institution de représentation. Alors, ce que nous a montré Stéphane Sirot, c'est que se met en forme peu à peu la conception d'un syndicat comme représentant d'un collectif qui peut conclure des accords. Ce sont les premières conventions collectives, en fait. Après 1946, alors du coup, Stéphane, il a fait aussi une petite incursion un petit peu hors des bornes chronologiques, hein, qu'il avait prise en charge, mais ça me semble important parce que ça nous donne à réfléchir. Il insiste sur le fait qu'on va assister, donc après 1945, à la multiplication des lieux où va se forger l'institutionnalisation, hein, par rapport à la période antérieure, multiplication des lieux. C'est évidemment la création des comités d'entreprise, mais aussi toutes les institutions liées à la protection sociale, hein, à la sécurité sociale. Et il insistait sur le fait que ce qui change, donc, selon lui aussi, après 1945, c'est essayer de penser en même temps une institutionnalisation au niveau macro, hein, qui s'est élargie après la Seconde Guerre mondiale, donc au niveau national, interprofessionnel, et au niveau micro, je vais avoir l'occasion d'y revenir, au niveau de l'entreprise, hein, surtout après 68 et la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise et du délégué syndical. Alors, à la suite de cette première intervention, qui nous permettait de réfléchir aux héritages, pour ma part, j'ai insisté dans ce colloque sur les différentes approches de l'institutionnalisation dans les analyses internes au mouvement ouvrier et externes à celui-ci. Analyse interne, je veux parler par là de tous les débats, hein, je crois qu'on peut faire une connexion entre institutionnalisation et tous les débats qui sont très présents, qui sont importants au sein du mouvement ouvrier dès la deuxième moitié du 19e siècle, déjà chez Marx et Engels, qu'on va retrouver au début du 20e siècle, sur le phénomène de bureaucratisation. Hein, essayer de voir comment on peut articuler réflexion sur l'institutionnalisation et la bureaucratisation. Il me semble, on en discutera peut-être, que d'ailleurs les premiers débats sont sur la bureaucratisation et non pas l'institutionnalisation. On va parler de bureaucratisation, donc c'est bien sûr les apports déjà de Marx sur la question, c'est aussi du côté d'une sociologie inspirée par Max Weber, les travaux de Roberto Michels, ou Michels, sur, vous savez, la loi des reins, la oligarchie, comment finalement, dans toute organisation même qui veut contribuer à un processus révolutionnaire, se mettent en place des processus de division du travail, de concentration du travail, d'exclusion d'une partie des militants. Comment se constitue un corps de permanents syndicaux qui vont se détacher de la base, à la fois en termes, par rapport aux conditions sociales qui sont les leurs, par rapport aux activités auxquelles ils se consacrent. Donc c'est toute la critique des phénomènes de pouvoir qui se jouent dans les organisations, qui est donc ancienne et qui est, me semble-t-il, assez... c'est au travers de ça qu'on aborde ce phénomène d'institutionnalisation au début, en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, on va davantage parler d'institutionnalisation, en raison même des institutions qui ont été créées, comme les comités d'entreprise, mais surtout la mise en place des institutions du salariat, au travers de la protection sociale. Mais l'approche est encore très marquée par cette réflexion sur la bureaucratisation. Les travaux qu'on trouve dans les années 50-60 sont beaucoup aussi sur le gonflement des appareils syndicaux. Avec tous les débats, on parle à l'époque de fonctionnaires du syndicalisme. Qu'est-ce que ça veut dire, leur rapport aux autres syndiqués. Et puis on va véritablement trouver, je vais vite, là aussi on pourra y revenir, des débats sur l'institutionnalisation dans les années 80. Donc il me semble que c'est d'autres débats qui sont orientés de façon différente, là très éloignés des discussions sur la bureaucratisation telle qu'elle avait pris corps dans le mouvement ouvrier. Là, ce sont des débats qui sont plutôt portés par l'extérieur, parfois par d'anciens, par des intellectuels qui ont pu travailler en lien avec des organisations syndicales, et qui sont très liés à l'analyse de la crise du syndicalisme, de la crise des effectifs. Et ce qui va être mis en cause, c'est le décalage croissant entre l'assise institutionnelle du syndicalisme et son assise sociale, avec tout un discours sur le fait que le syndicalisme français, dans ses différentes composantes, tiendrait essentiellement grâce à sa présence dans les institutions, ses élus dans les entreprises, grâce au financement public, direct ou indirect via la formation professionnelle ou d'autres participations aux instances du paritarisme. Donc ça, il y a énormément d'écrits, énormément de contributions sur cette question. On trouve parfois des thèses très poussées sur cette question-là. Il y a comme ça un politologue américain qui s'appelle Chris Howell qui parle du syndicalisme français comme un syndicalisme virtuel. Alors ça peut étonner, et pour ma part je ne m'y retrouve pas complètement, mais je veux la présenter pour y réfléchir. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que le syndicalisme français, finalement, dans ses différentes composantes, à mon avis c'est ça qu'il faut nuancer, son influence ne repose ni sur sa capacité à représenter de façon massive la classe ouvrière, vu qu'on a un syndicalisme qui est toujours resté relativement minoritaire, à part quelques exceptions, quelques périodes de forte syndicalisation. Sa force son influence ne repose pas non plus sur sa capacité à réguler le marché du travail par la négociation collective, comme on peut voir dans les syndicalismes de type américain ou britannique, mais selon lui sur deux dimensions. Le fait d'être reconnu par la puissance publique comme représentant des intérêts du monde du travail, le fait de fournir en retour à l'État des institutions qui, au travers des relations qu'elles entretiennent avec lui, contribuent à rendre légitimes certaines orientations économiques et sociales. Donc pour lui, les syndicats en France se seraient renforcés au travers de cette relation centrale à l'État, beaucoup plus en fait que dans la confrontation aux employeurs, finalement conférant à l'État un rôle central dans le processus de construction, y compris du champ syndical. En fait. Alors c'est une thèse qui est excessive, qui parle sans doute d'autres organisations que de la CGT, mais je la trouve intéressante à la soumettre parce que je crois qu'elle ouvre justement la question de la comparaison. Alors cette comparaison, elle nous a été apportée par Udo Rehfeldt. Il nous avait semblé aussi important d'aller voir ailleurs comment on parle d'institutionnalisation, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme dans d'autres pays. Donc Udo Rehfeldt Comme je l'ai dit, là, il a beaucoup travaillé sur l'Italie, sur l'Allemagne. Il connaît aussi bien d'autres cas nationaux, comme l'Espagne. Et il montre, il nous a aidé à voir que ce terme d'institutionnalisation, en tout cas en Italie, en Allemagne, a surtout été entendu comme le fait, alors, dans la période après 1945, et même, je dirais, dans les années 60-70, hein, comme le fait de donner un statut, en quelque sorte, politique aux organisations syndicales. C'est-à-dire une place reconnue aux syndicats dans les mécanismes de concertation au niveau national et interprofessionnel. Là, il a vraiment en tête le cas italien. Du coup, lui, ça l'avait amené à travailler sur des approches qu'on parle en sciences politiques, des approches néocorporatistes. Qu'est-ce que c'est que cette idée de néocorporatisme ? C'est l'idée d'une pleine reconnaissance des organisations syndicales par l'État, l'attribution d'un statut public, leur mission de représentation est confortée, et en même temps, les syndicats participent à la définition des grandes orientations socio-économiques, participent à l'élaboration et à la mise en place de politiques publiques dans différents secteurs. Donc, il y a une forme, on parlait de néocorporatisme ou d'échange politique, hein, de pactes négociés au niveau national, central, hein, qui donnait en même temps une place stabilisée, forte, aux organisations syndicales dans différents secteurs. Or, ce modèle, je ne vais pas faire trop long là, mais ce qui est important, c'est de voir que ce modèle d'échange politique, de reconnaissance très forte au niveau national et interprofessionnel au travers de pactes sociaux, qui existe aussi en Belgique, par exemple, il est entré en crise en Italie, en Espagne, dans les années 2000. Il est entré en crise dans la mesure où les termes de l'échange sont devenus très, très inégaux, en fait. Or, c'est intéressant de voir que c'est au même moment en France qu'est votée la loi Larcher, en 2007, hein, qui veut instaurer, hein, qui instaure l'obligation de passer d'abord par une phase de concertation, de négociation des 10 interlocuteurs sociaux avant que le gouvernement ne récupère la main et reprenne le texte de l'accord s'il y a eu accord ou récupère la main sur une proposition de loi. Alors là, on est au niveau très macro, la macro-institutionnalisation, qui nous ouvre sur la réflexion du côté du politique, de vouloir impliquer les syndicats dans les choix économiques qui sont faits. Et ça prend un autre sens quand on est dans une période de crise. Je crois que c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a eu un changement aussi, hein, dans cette façon de reconnaître le rôle des organisations syndicales au niveau national et interprofessionnel. Alors, Udo Rehfeldt, il nous montrait ses conclusions un petit peu. Il disait qu'est-ce qu'on peut tirer de ces exemples italiens, espagnols, sur ces pactes sociaux. Il dit que ça ne garantit pas nécessairement un haut niveau de syndicalisation. L'institutionnalisation, la reconnaissance de la place des syndicats dans la société, n'est pas à elle seule la garantie du maintien d'un rapport de force. Mais le mouvement syndical peut s'affaiblir encore plus lorsque cette institutionnalisation est remise en cause. Et on pourrait prendre l'exemple de la Belgique ici, hein, avec la remise en cause justement d'un certain nombre de mécanismes, notamment de gestion, alors par rapport à la sécurité sociale bien sûr, mais aussi de contrôle, hein, de l'inflation, enfin de l'indexation des salaires sur l'inflation, qui est très important en Belgique. Dernière intervenante pour cette première table ronde, j'ai pris du temps, excusez-moi, mais ça me paraissait important, c'est Maryse Dumas qui est revenue de façon réflexive sur son expérience et l'expérience de la CGT. Donc, je crois que Maryse, elle est dans la salle, donc je l'invite à revenir sur mon propos si je synthétise de façon trop rapide. Donc elle est revenue sur un moment très important dans la CGT, sous les mandats de Louis Vianney, et notamment après 1995. Moment de réflexion sur un usage des institutions qui évite d'un côté le risque de l'intégration, intégration voulue, alors là je viens de le dire, par les pouvoirs publics, mais aussi intégration voulue du côté des entreprises, par les politiques managériales, et qui évite de l'autre le risque de la marginalisation, c'est-à-dire être enfermé dans une étiquette de syndicat contestataire, avec des effets de cet enfermement, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc comment, dans cette période-là, il y a la volonté de définir une démarche syndicale qui permette de poser une approche CGT de la négociation, non pas une négociation à froid, mais la négociation comprise comme un élément dans l'ensemble du processus de représentation des salariés, dans une activité qui va de la production de solidarité, de revendication, en passant éventuellement par la mobilisation, donc dans un ensemble beaucoup plus large, en fait. Alors, comment définir une approche un usage CGT des institutions, alors même qu'on aussi, ça c'est important de le dire, on est en concurrence avec... Il y a aussi des jeux de concurrence avec d'autres organisations syndicales et d'autres définitions qui sont portées par ces organisations syndicales. Comment utiliser les instances de représentation statutaire, telles que la Commission nationale de la négociation collective, les instances du paritarisme, les comités d'entreprise, ou des instances plus ponctuelles, comme par exemple la convocation de conférences tripartites par le gouvernement. Alors, Marie Dumas a pointé le fait de pouvoir, par exemple, s'en servir comme des tribunes pour faire entendre les revendications de la CGT, s'en servir comme des lieux pour mesurer les options stratégiques des autres organisations syndicales, comprendre leur fondement, la façon dont elles s'articulent avec différents éléments, comprendre les points de convergence possibles aussi, hein, des lieux où on peut voir les points de convergence possibles qui émergent, donc s'en servir aussi comme des lieux d'échange, c'est-à-dire quelque part aussi investir d'autres sens ces institutions, penser cet usage au travers d'un usage syndical qui permette de nourrir la réflexion et l'action syndicale. Et le moment des 35 heures a été un fort moment d'expérimentation, elle est revenue là-dessus, un fort moment d'expérimentation et d'application de cette démarche. Donc c'était extrêmement intéressant de à la fois d'essayer de revenir sur la définition de cette démarche et de voir son application au travers du moment des 35 heures. Donc pour conclure cette première séance, je voudrais juste revenir sur des éléments de débat et notamment des pistes qui ont été évoquées par Jean-Pierre Lechrome, qui était dans la salle, qui ne participait pas, mais qui après a animé une des tables rondes, hein, une des sessions, pardon. Il nous disait, et voilà, c'est aussi pour soumettre ça à la réflexion, il nous dit finalement la forme la plus connue de l'institutionnalisation, c'est sans doute le paritarisme, l'institution du paritarisme, mais finalement, derrière l'institutionnalisation, il existe des phénomènes très variés. Et donc on a intérêt à voir un petit peu la palette de ces différents phénomènes. Il nous invitait à vraiment prendre en compte les échelles de l'institutionnalisation au niveau national, au niveau local, au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau des territoires. J'y reviendrai tout à l'heure sur le développement, notamment sur les périodes plus récentes de ce qui est appelé, entre guillemets, le dialogue social territorial, en fait. Donc voilà, ces jeux d'échelle que nous, on avait bien perçus dès la rédaction de l'appel à communication, comme très important pour voir aussi de quoi on parle exactement et si on peut penser à un usage d'institution, un usage syndical, qui soit le même à ces différents niveaux.
Merci Sophie. Mais maintenant, on va pouvoir dire que le décor est en quelque sorte planté avec un regard historique, des comparaisons européennes, une approche politique et syndicale. On va essayer d'entrer dans le sujet par des exemples plus concrets qui ont fait l'objet des séances 2 et 3, hein. Comme je le disais, outils pour la conquête de nouveaux droits ou pas, et puis jeux d'échelle et jeux de pouvoir. Le fait de participer aux institutions a de tout temps fait l'objet de débats contradictoires. Et on va travailler sur la question de la fonction publique. Ce problème est très particulier. Particulier parce que les fonctionnaires ont la particularité d'être de fait institutionnalisés. On pourrait même dire qu'ils ont comme mission de faire fonctionner les institutions. Voilà. Alain Dalasson, président de l'IRHSES, a illustré ce sujet par une étude sur le fonctionnement des commissions paritaires et plus précisément de la CAP, la commission administrative paritaire, dans le second degré de l'éducation nationale de 1946 au XXe siècle. Voilà. Pour les syndicats, être associé à la gestion des déroulements de carrière et des mutations des enseignants fut perçu comme une avancée sociale considérable par les groupements corporatifs autonomes et les syndicats regroupés dans la FGE-CGT, qui en avait fait une revendication, les ex-unitaires étant quand même plus circonspects sur le fait. Néanmoins, certains éléments ont d'emblée posé des problèmes, et particulièrement la question de l'avancement au choix. Il fallut donc essayer de trouver des équilibres et apaiser les craintes pour éviter que les instances paritaires soient perçues comme des organismes bureaucratiques et même assimilés à une forme de co-gestion. Voilà. Autre sujet à controverse, la compétition électorale entre syndicats. Car l'institutionnalisation de la démocratie représentative dans les instances paritaires entraîne de fait ce phénomène. Il y a deux aspects. C'est à la fois un facteur de syndicalisation, car les syndiqués sont traités de manière prioritaire par les représentants syndicaux. Mais cette forme de, j'ouvre des guillemets, mais clientélisme se traduit aussi comme un facteur de défiance vis-à-vis des organisations syndicales. Et le SNES le paye dès les élections de février 1948. Le rôle et l'attribution de ces instances paritaires sont aussi très dépendantes du pouvoir politique. Le retour de De Gaulle en 1958 change totalement la donne. les ministres et la haute administration ne vont plus forcément suivre l'avis des conseils et des commissions. Le paritarisme est de moins en moins respecté. Les syndicats qui s'opposent au pouvoir retrouvent donc à ce moment-là le chemin de l'action de classe. Le mouvement de mai 68 constitue un autre tournant quant à lui et un exemple de capitalisation dans les négociations, que ce soit sur l'emploi, les salaires ou les carrières. Ce fut un facteur de syndicalisation important pour le SNES, mais paradoxalement, les syndicats les plus engagés dans l'action ne sont pas ceux qui en tirent le plus de bénéfices lors des élections qui suivent. Après 68, l'administration met en place des mesures managériales qui intensifient les carrières au mérite. Les syndicats essaient de tenir les deux bouts entre action et implication dans le paritarisme et éviter de tomber dans le syndicalisme de service. À cela s'ajoute la transformation politique de la fonction publique par les lois de décentralisation et les évolutions des scrutins électoraux qui se traduisent par une baisse de participation des agents et une multiplication des listes entraînant de fait l'affaiblissement du syndicalisme. Philippe Coinet, toujours sur le périmètre de la fonction publique, nous a illustré des confrontations d'un autre genre qui peuvent exister dans la CGT par des divergences relevant des lieux d'intervention dans les institutions, mais aussi de la nature du statut des fonctionnaires. Cette fédération, nous explique-t-il, fut traversée par des débats très vifs entre communalistes et fonctionnaristes. En clair, pour les uns, l'autonomie communale est perçue comme un rempart à l'appareil d'État. Pour les autres, il faut une égalité de règles pour l'ensemble des fonctionnaires, qu'ils soient territoriaux ou d'État. Les premiers vont d'ailleurs obtenir un statut type communal en 1952, mais ce débat dans la fonction publique, dans la fédération, va durer des décennies. Un tournant s'opère lors du premier congrès de la fédération suivant la séparation, 3 ans auparavant, de la branche santé en 1982. Le contexte est particulier, la gauche est au pouvoir, le ministre de la fonction publique est communiste, la loi de décentralisation est votée, le programme d'action de la CGT prévoit la reconnaissance pour tous les fonctionnaires, quel que soit leur niveau institutionnel, des mêmes droits et garanties fondamentales. Le secrétaire général, Pouchol, dans son rapport introductif, tente d'unir les différents courants d'idées. Il propose que les agents communaux soient de vrais fonctionnaires sans que cela soit contradictoire avec l'autonomie communale. Pour cela, il avance l'idée de faire un grand statut national de fonctionnaires avec un conseil supérieur de la fonction publique et à l'intérieur des statuts particuliers pour répondre aux différents niveaux institutionnels. Il traduit cela en proposant de passer d'une conception étatique à une conception nationale de la fonction publique qui ne sacrifie aucune spécificité. Ce discours, au lieu d'unifier, met le feu aux poudres. Il doit même mettre sa démission dans la balance pour parvenir à une adoption des textes. Autre illustration de sujet à controverse, les contrats de solidarité et les conseils de service. Les premiers sont mis en place dans le cadre de l'incitation aux 35 heures. Pour certains, cet instrument politique n'est rien d'autre qu'une participation des agents et donc des organisations syndicales au marchandage qui se joue entre l'État et les élus locaux. Pour d'autres, au contraire, c'est un outil permanent pour gagner des moyens et des emplois correspond aux charges que la décentralisation transfère aux communes. Il en va de même concernant les conseils d'atelier ou de service. Cela est considéré par des dirigeants syndicaux comme une aubaine, car ces conseils permettent d'être impliqués dans l'organisation du travail, les budgets des services, l'achat du matériel. Pour une autre partie du corps militant, cette responsabilité nouvelle nous entraîne vers la co-gestion, argumentant que les représentants du personnel voient systématiquement leurs revendications se heurter à des contraintes budgétaires. Le temps a fait son œuvre, les débats sont moins vifs, mais persistent. Ces institutions sont-elles un facteur de reconnaissance et d'utilité du fait syndical ou bien ne servent-elles qu'à émettre des avis qui ne s'imposent pas et donc décrédibilisent l'action des délégués syndicaux ? Thérèse Poupon, secrétaire confédérale de 1982 à 1989, a pour ça, pour ce qui la concerne, apporté un exemple d'implication syndicale dans les institutions qui ne prête pas à contradiction, puisqu'elle a illustré cette question en abordant la création de la sécurité sociale par l'ordonnance de 1945. Dans cette période faste de l'histoire que constitue la mise en œuvre du programme national, du Conseil national de la résistance, il est vrai que les militants CGT se sont engagés à fond avec la volonté de faire réussir un projet qui constitue une avancée sociale fondamentale. Mais il faut tout de même noter que cet engagement n'était pas gagné d'avance et a nécessité de la part de certains militants d'un effort considérable pour acquérir d'abord les compétences requises, mais aussi une autorité vis-à-vis des adversaires, notamment côté patronal, mais pas seulement. Elle exprime que la force des militants dans ce système institutionnel est liée à plusieurs facteurs. d'avoir la conviction et l'ambition de réussir, mais aussi parvenir à ne pas se faire absorber par le système institutionnel et pour cela garder en permanence un lien entre leur mission d'administrateur dans l'institution et l'organisation syndicale. Et pour nous faire mesurer l'importance de ce lien, Thérèse Poupon a rappelé le rôle essentiel joué par les administrateurs de la Sécurité sociale dans la réussite de la manifestation du 22 mars 1987. Ce sont les administrateurs, dit-elle, qui, par leur connaissance fine des mécanismes et des enjeux, ont permis de bâtir des argumentaires, des tracts et différentes formes de communication apportées aux militants pour mener la bataille des idées, construire la mobilisation et mettre en place un réel rapport de force. Nous avons là une illustration d'une institutionnalisation du syndicalisme pleinement positive. Cette communication qui concerne tous les salariés permet d'avoir un regard sur un autre champ, celui d'un établissement nationalisé de construction aéronautique en région toulousaine, qui fut présenté par l'historien Claire Juillet. Cette communication nous montre en quoi l'institutionnalisation du syndicalisme peut être un facteur de compétition syndicale marqué par des périodes d'unité et de désunion stratégique qui engendre des conflits internes dans une organisation comme la CGT et peut aller jusqu'au déclin, de son déclin en matière de représentativité. Nous avons aussi une vision stratégique patronale qui fait de l'institution un outil managérial et une démarche politique visant à réduire la conflictualité et l'intervention directe des salariés en encadrant les pratiques de négociation collective. Nous sommes dans un domaine particulier puisqu'il s'agit d'une entreprise qui est très dépendante de l'État et donc un secteur d'activité stratégique pour la nation qui exige une très grande qualification des salariés. On passe sur les lois de 1946 qui rétablissent les conventions collectives mais en réduisent quand même la portée. Puis il y a la loi de 1950 qui met en place une négociation au niveau des branches dans la métallurgie. L'UIMM fait le choix de porter la négociation à l'espace territorial. Dans ce contexte, la CGT signe seule une convention de la métallurgie de la région toulousaine. Si cette convention permet de gagner des droits nouveaux pour l'ensemble des salariés, ceux de l'aéronautique ont le sentiment d'être lésés et ceux hors aéronautique peinent à la mettre en œuvre dans leurs entreprises souvent trop petites pour en avoir les moyens. FO s'engouffre dans cette brèche pour porter la revendication d'un avenir aéronautique local et national. Sur la région toulousaine, ce clivage se traduit par une scission de la CGT en deux sections syndicales, la section aviation et la section mécanique générale. La CGT se retrouve contrainte à porter la revendication de FO. Malgré l'unité, la mobilisation n'aboutit pas, mais en 1968, FO et l'UMM signent un accord de convention collective de l'aéronautique propre à la région parisienne, ce qui sert d'appui à une extension. L'application du cinquième plan entre 1966 et 1970 engendre la création d'un champion national, l'ASNIAS, la Société nationale industrielle d'aéronautique et spatiale, par la fusion des établissements et sociétés nationales. Cette décision nécessite de penser une harmonisation sociale des 43 000 salariés du groupe. Dans le même temps, après 1968, Chaban Delmas pousse pour faire de l'ASNIAS une véritable vitrine de la réforme du dialogue social nouvellement promue. En octobre 1970, FO, la CGC et la CFTC signent l'accord société qui met fin à toutes les dispositions intérieures. Cela se traduit par une centralisation au niveau du siège des négociations. Les négociateurs sont désormais des délégués centraux, éloignés de l'entreprise. En outre, dans un système nouveau de relations sociales qui structurera les rapports sociaux pendant plus de 15 ans. Car de fait, dans un premier temps, la CGT est exclue des négociations où ne participent que les signataires de l'accord. Et d'ailleurs, la CFDT fait de même. La CGT signera ensuite à la SNIAS en 1972 pour avoir accès aux négociations, ce qui produit des divergences d'appréciation entre la direction fédérale, favorable à cette signature, et les acteurs locaux opposés dans la période. La CGT a perdu sa place de premier OS et a perdu le CE. La CFDT ne signera qu'avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Un dernier avenant à l'accord est signé en 1985, mais en 1986, l'UIMM dénonce l'accord pour abroger la clause automatique d'augmentation des salaires. Un nouvel accord est signé en 1987. La CGT n'apposera pas sa signature. Dans cet épisode, la stratégie gouvernementale et patronale, comme celle des différentes organisations syndicales, et une nouvelle forme de relation sociale mise en œuvre acceptée par une majorité de syndicats, ont conduit à une marginalisation de la CGT. A l'inverse, Jean-Noël Dutheil nous a présenté un exemple très positif, c'est la création des comités de gestion associant la classe ouvrière à la conduite d'une usine dans l'Allier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants de l'entreprise collaborent avec l'occupant, la résistance s'organise dans la région. À la Libération, le comité départemental de Libération discute de statut des comités de gestion pour éviter les sabotages et permettre un redémarrage rapide des entreprises afin de hâter la Libération. Conformément au programme du CNR, dans chaque entreprise de plus de 100 ouvriers se met en place un comité de gestion. Un délégué cadre désigné par l'Union des cadres ingénieurs de la France combattante et un délégué ouvrier désigné par la CGT. Cela se passe sous le contrôle de l'Union départementale, des CGT, et dans chaque département se crée également une commission de réorganisation économique, le CRE. Rapidement, des freins se mettent en place vis-à-vis de cette situation atypique. Les arrêtés promulgués par le CDL de l'Allier sont contestés par le commissaire de la République de la région de Clermont-Ferrand. Le préfet de l'Allier refuse de se soumettre au pouvoir du CRE. Le patronat local dénonce une soviétisation des entreprises. Les agents de De Gaulle sont envoyés pour redonner confiance au patronat récalcitrant. Les entreprises déplacent leurs sièges sociaux. Les banques se mettent de la partie afin de bloquer les investissements. Pourtant, ces institutions ont prouvé leur efficacité. Elles contribuent à résorber le chômage. Elles permettent l'intégration des prisonniers, des déportés et de la jeunesse ouvrière. Elles œuvrent à la remise en place des usines détruites par les bombardements. Le CRE s'occupe de trouver des moyens financiers, des matières premières. Les représentants de la CGT s'illustrent dans leur capacité de prise de responsabilité. Les objectifs atteints sont même atteints avant les délais prévus. De plus, dans les entreprises ainsi gérées, les antagonismes entre commandement et exécution disparaissent, sans pour autant priver l'usine d'une certaine discipline et de rigueur dans l'organisation de la production. Il y règne un esprit de confiance et de collaboration loyale entre tous les échelons. Les réunions syndicales se déroulent même dans l'entreprise ou une salle est réservé à cet effet. À l'évidence, ce modèle d'institutionnalisation a créé un climat unique dans l'histoire sociale qui validerait la pertinence d'un tel modèle. Les comités d'entreprise sont mis en place progressivement par l'ordonnance de février 1945. Dans un premier temps, elle laisse le choix au conseil d'administration de remplacer ou de maintenir le comité de gestion. Benoît Fachon critique même l'ordonnance sur certains aspects. Il estime qu'elle marque un manque de confiance dans la classe ouvrière et que les restrictions apportées aux délégués ouvriers dans les CE sont inspirées par la peur de porter atteinte aux privilèges du grand patronat. D'ailleurs, dans l'Allier, l'UDCGT décide de maintenir les comités de gestion et ne présentera pas de candidats au CE. La loi de mai 1945 conduit au remplacement des comités de gestion par les comités d'entreprise, définitivement. Ce processus d'institutionnalisation fut jugé trop audacieux avec l'inversion des normes de direction. Cela offrait pourtant une base d'expérimentation sérieuse. Le chef du cabinet du ministre du Travail, Joussin, avait même affirmé que l'expérience des comités de gestion était concluante et devait être suivie. On peut tout de même affirmer que cette expérience mise en œuvre dans l'Allier a constitué quelque part la base de l'esprit de la constitution des comités d'établissement. Pour terminer, évoquons une autre échelle d'institutionnalisation du syndicalisme par l'engagement des organisations dans les instances internationales. Claude Rocati, historienne, a traité de la stratégie de la CFDT. Elle désigne ça au révélateur du TUAC, la commission syndicale consultative auprès de l'OCDE. Le TUAC est une institution particulière qui n'a aucun pouvoir décisionnel et n'est pas un lieu de négociation, mais uniquement une instance de représentation qui permet à ses membres de rencontrer les gouvernements des États de l'OCDE. C'est une instance donc consultative sur le modèle des institutions européennes d'après-guerre. Dans les années 70, la CFDT se désintéresse, bien qu'il y ait une place de droit en tant qu'adhérente à la CMT. La situation change complètement au tournant des années 80, quand la Confédération réinvestit les instances internationales, y compris l'OIT. Jusqu'en 1976, la CFDT ne fait même pas référence au TUAC dans ses textes ou rapports de congrès. René Salane, responsable du secteur international, évoque lors du congrès de 1976 le délaissement passé et désigne l'OIT comme le plus grand carrefour permanent des syndicats qui permet de mener des débats intéressants. En 1979, c'est le TUAC qui est évoqué et il est estimé que la Confédération doit s'y intéresser pour trouver des convergences et confronter des positions. Et la CFDT envoie des membres au sommet syndical organisé par le TUAC en marge du G7 à Tokyo. Un compte rendu est produit dans la presse syndicale et la CFDT se rend à une réunion du TUAC à Venise l'année suivante. Dès lors, la CFDT siège au comité administratif et aux assemblées plénières. L'intérêt et la visibilité que donne le TUAC avec la publication de textes déclaratifs nommés mémorandums et des rencontres avec les chefs d'État du pays d'accueil et ceux qui animent la CFDT à cette époque. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, la CFDT, par sa participation au TUAC et même association, a préparé des sommets internationaux comme celui d'Ottawa. La CFDT a d'ailleurs reçu plusieurs fois l'Élysée. Le TUAC est de plus en plus associé à la préparation de ces sommets. Il faut préciser que l'arrivée d'un Finlandais à sa tête a influencé le choix de la CFDT, mais aussi le fonctionnement est jugé plus rigoureux. Grâce à cette position, la CFDT intègre le comité d'administration du TUAC. Désormais, elle investit pleinement cette institution et nomme même des représentants permanents. Mais le désenchantement est rapide, car le doute sur le retour sur investissement grandit. Mitterrand montre un grand attachement au travail avec la CFDT en amont des sommets, mais force est de constater que les aspects sociaux ne sont pas la priorité de ces rencontres internationales. C'est un peu la douche froide quant à la capacité d'influencer sur les déroulements et le contenu des travaux. Peu à peu, la Confédération maintient sa présence mais réduit son niveau d'engagement en son sein. Le TUAC reste un lieu de rencontre et de rapprochement avec les organisations, notamment japonaises et américaines, très peu fréquentées jusque-là. Cette activité au TUAC permet à la CFDT d'être acceptée à la SCISL, et ça c'est important, et il est réaffirmé au Congrès de Strasbourg en 1988 son ambition d'être reconnue et de peser au niveau du G5, du G7, de l'ONU, de ces organismes spécialisés comme le GATT ou le FMI ou la Banque mondiale, en tant que membre des organisations syndicales mondiales. La CFDT estime par le TUAC, elle a trouvé une place réelle au sein des organisations syndicales des pays industrialisés. Elle en a mesuré les limites et un ratio investissement-retour pas très positif. Ainsi, elle se projettera dès lors plus vers l'échelle européenne. Cette étape s'inscrit dans le recentrage de l'organisation. Cela marque sa vision stratégique en soutenant par exemple le choix de la rigueur en 1983. Elle marque aussi une modification d'un pas important de sa politique internationale au nom de l'efficacité. Enfin, je terminerai avec Bernard Thibault qui lui a traité du sujet de l'OIT depuis 1945 avec des ambitions et les limites de cette institution mondiale du travail. Il présente cette institution comme une résultante sur fond de saignée des peuples lors de la Première Guerre mondiale et d'embrasement révolutionnaire en Europe, Russie, mais aussi Allemagne et Hongrie. Des tentatives de structurer le mouvement ouvrier international sur un plan politique et la volonté de créer des institutions internationales du travail. Vis-à-vis de l'OIT, la CGT aura une attitude très évolutive. De 1910 à la scission de 21, la CGT incarne par Léo Jouot cette volonté de créer une institution mondiale dédiée à la réglementation du travail et au contrôle de son application. Il a d'ailleurs largement contribué à sa création. De 1922 à 1932, deux organisations, deux appréciations opposées. La CGTU est très critique vis-à-vis de cette institutionnalisation, comme elle dénonce le Conseil national économique, l'ancêtre du CESE actuel. De 1932 à 1939, la position de la CGTU s'adoucit. C'est à mettre en lien avec les efforts diplomatiques de l'URSS qui adhère à l'OIT en 1934. Cette position unitaire de la CGT perdurera jusqu'à sa scission de 1947. De 1947 à 1954, c'est un remake quelque part de la deuxième période. La CGT n'envoie même plus de représentants, tandis que Jouot y prend une place de plus en plus importante, s'en servant de lieu quelque part de propagande anticommuniste à travers le monde. De 1954 à 1985, nouvelle période, l'URSS réadhère à l'OIT, la CGT y revient, mais s'en sert uniquement de tribune d'expression à sa solidarité internationale. De 1985 à 2005, la CGT s'investit différemment. Elle est présente dans la commission d'application des normes et joue la carte de la mobilisation dans le sens de faire sanctionner les violations aux droits fondamentaux. Daniel Retereau devient une figure de cette commission et intervient sur un grand nombre de cas dans les pays sensibles. Et nous connaissons aujourd'hui la dernière étape de cet investissement avec des saisines effectives qui viennent en appui des mobilisations en France sur la situation des travailleurs migrants, sur les réquisitions des grévistes en 2010 contre les lois travail de 2016 et les ordonnances de 2017, sur les questions d'égalité femmes-hommes et sur la lutte contre la violence faites aux femmes au travail. On le voit, selon la décision syndicale qui est prise d'investissement dans une institution, le but de cet engagement et la nature de l'action réalisée en son sein, l'institutionnalisation peut être un élément constitutif de progrès social.
Alors, je vais prendre la suite sur les dernières séances du colloque, donc les séances 4 et 5. La séance 4, elle était assez conséquente. On l'a fait en deux parties. C'était sur les usages syndicaux des institutions. Et la séance 5 interrogeait la période donc plus contemporaine, même si on s'est donc arrêté en 2007, sur l'émergence, comment on essaie de qualifier l'émergence d'une autre logique de l'institutionnalisation, notamment au travers de la valorisation du dit, entre guillemets, dialogue social, en fait. Alors, sur la séance 4, je vais essayer de revenir un peu sur les grandes idées qui s'en dégagent. Je m'excuse par avance si je ne restitue pas de façon exhaustive les différentes contributions. Il y a peut-être des contributeurs d'ailleurs dans la salle qui pourront y revenir si j'oublie des éléments, en fait. La première séance nous a permis de réfléchir sur ces usages syndicaux des institutions aux formes d'intégration dans les institutions, mais aussi d'exclusion, en fait, de mise à l'écart, d'ostracisation, en fait, de certaines organisations, en particulier la CGT, d'institutions à des périodes historiques données, en fait. Le fait de ne pas en être ou d'en être exclu, d'en être peu à peu marginalisé, c'est effectivement une situation connue dans la CGT, en particulier dans les années 1950. Et je crois que c'est intéressant de revenir, comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport à ce que disait Marie-Yves Dumas, sur ce côté du pôle, là, la marginalisation, quels effets cela induit, en fait, cela provoque. Donc Jérôme Beauvisage est revenu sur ce processus politique de l'isolement de la CGT au début des années 50. Il nous a bien rappelé comment, en contraste avec la période qui va de 45 à 47, la CGT peu à peu se voit ostracisée, en particulier la période 51-53, avec la réduction par exemple de la représentation de la CGT au Conseil économique et social, la CGT qui n'est plus invitée à participer à l'élaboration du plan, qui est écartée du troisième plan, qui est écartée des CA, des grandes entreprises nationalisées. Donc tout ce processus qui a comme pendant aussi le fait que la puissance publique, à ce moment-là, utilise aussi le pluralisme pour construire un front anti-CGT. Et du coup, ça a des effets aussi sur la forte intégration, même s'il faut prendre ce terme il faut aussi critiquer aussi ce terme, essayer de le déconstruire un petit peu, mais une forte institutionnalisation en retour de Force ouvrière et de la CFTC. Alors, ça a plusieurs effets. En interne, dans la CGT, et Jérôme reviendra aussi là-dessus s'il le souhaite après, mais moi ce que j'avais noté de très intéressant dans sa communication, c'est les débats sur comment sortir de cette marginalisation. Est-ce qu'il y a des discussions pour savoir comment apprécier les ouvertures qui viennent soit du gouvernement avec des changements de majorité, c'est ce qui se joue un petit peu pendant la période Mendès France, qui essaye d'établir une nouvelle forme de dialogue avec les organisations syndicales, des politiques de rendez-vous, mais des politiques où on ne va pas voir l'ensemble des organisations syndicales en même temps, mais organisation par organisation. C'est ce qui se joue aussi, et ça c'est très, très intéressant je crois, autour des débats sur la signature ou pas de l'accord obtenu à Renault dans dans l'entreprise Renault en 1955, en fait, des débats importants pour savoir si la CGT le signe ou pas. Je crois que ça, c'est des éléments de réflexion pour voir comment on fait quand on subit cette politique de marginalisation, comment on fait pour essayer pour l'analyser et éventuellement la dépasser. Et puis, il nous invitait aussi à réfléchir à ce que cette marginalisation de la CGT, donc pas au début de la 4e République, mais ensuite, dans les années 50, a fait aussi à cette 4e République. Et ça aussi, ça me semblait particulièrement intéressant à réfléchir. C'est-à-dire comment le fait de marginaliser la plus importante organisation syndicale, sur le plan évidemment numérique et sur le plan des luttes, a aussi contribué à affaiblir les institutions de la 4e République et contribué au fait que ce régime ne se soit pas stabilisé. Je pense que c'est une façon importante de relire aussi ce régime, cette histoire politique qui est peu mise en œuvre en fait. Alors, combat par rapport à des processus de marginalisation que l'on a vu aussi au travers de différents exemples, aussi bien à EDF que à la SNCF. J'y reviendrai dans un instant. Mais combat aussi pour des organisations nouvelles venues dans le champ syndical pour être reconnues et pouvoir participer d'un certain nombre d'institutions. Et là, c'est la communication qu'a présentée Josiane Dragoni sur la FSU, vu ce que Gilbert rappelait tout à l'heure, l'importance des instances paritaires dans un secteur comme l'enseignement. Finalement, construire une nouvelle organisation, c'est aussi la faire reconnaître dans ces différentes instances. C'est la faire reconnaître aussi, tous les enjeux de reconnaissance de la représentativité et le combat contre l'amendement Perben, en fait. Josiane Dragoni, dans sa communication, elle est beaucoup revenue sur ce qui s'est joué sous le gouvernement Jospin, avec le ministère de Claude Allègre, notamment l'offensive très forte, et ça fait écho à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'une des premières séances, l'offensive très forte pour déstabiliser le SNES, avec la déconcentration du mouvement des personnels, qui n'est plus géré au niveau national, mais au niveau des académies, ce qui a obligé aussi, au sein du syndicat, à repenser les modes de fonctionnement, à repenser l'importance de cette participation, cette implication dans ces instances, en fait. Alors, le cas du syndicalisme enseignant, il est extrêmement intéressant là par rapport à la place prépondérante des espaces institutionnels de représentation, mais aussi il ouvre des questions qu'on a retrouvées par la suite. Comment articuler le rôle des syndicats dans ces espaces avec des pratiques de consultation des agents, d'échange avec les agents, comment ne pas se retrouver isolé dans ces activités spécialisées qui sont chronophages, mais et qui du coup peuvent contribuer à créer une distance entretenir une forme de démocratie délégataire. On confie à ceux qui savent, à ceux qui sont dans ces instances, le fait de nous y représenter. Comment sont débattus les choix? Les choix qui sont portés dans ces instances, ce syndicalisme enseignant, il a un beau cas d'étude de cela, et je pense que c'est parlant aussi pour d'autres organisations syndicales, pour d'autres secteurs d'activité, en fait. Et donc, elle terminait sa communication en nous incitant à réfléchir à ces questions de, finalement, connecter ces enjeux de d'institutionnalisation avec les enjeux de démocratie syndicale, en fait. Dans cette session sur les usages... usages syndicaux des institutions. On a eu aussi, je vais assez vite, je ne reviendrai pas sur toutes les communications, mais notamment Pierre Delanoux et Thierry Roy, qui sont revenus sur l'expérience de la CGT au sein du conseil d'administration de la SNCF, sachant que la CGT a été évincée de ce CA de 1948 à 1972. Donc là, ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure, la marginalisation, le contournement, en fait. Et donc, il est revenu à la fois sur comment avait été vécu, géré cette éviction, mais aussi comment a été pensé ensuite le rôle des administrateurs, comment cela est pensé dans l'organisation, comment est réfléchie une complémentarité entre la direction fédérale, dans la direction fédérale, entre ceux qui et celles qui sont plus en charge finalement de l'activité militante et ceux et celles qui vont prendre ces responsabilités d'administrateur, en fait. Quelles commissions sont investies au sein du CA et comment finalement très concrètement se mettent en place des réunions hebdomadaires de la direction de la fédération avec les administrateurs salariés. C'est des questions qu'on a retrouvées dans la séance 4, mais la deuxième partie de la séance 4, où là, on est davantage entré plutôt sur des expériences militantes, des parcours militants, notamment d'administrateurs salariés, en fait. Comment des militants CGT investissent ces mandats liés à des institutions, des postes, voire ces rôles qui leur sont demandés, en fait, tenir le rôle d'un administrateur. Du coup, il y a eu tout un retour sur l'importance, c'est Jean-Michel Gaveau qui nous a invité, du groupe de travail des administrateurs salariés dans la CGT, afin de ne pas se sentir isolé, de prendre aussi toute la mesure de ces enceintes qui sont particulières, des façons d'y intervenir, de la façon de la porosité qui peut être celle de militants et militantes, même extrêmement bien formés, même conscients de tout ça, par rapport aux enjeux propres de ces instances, comment s'en garder, comment garder de la distance. Donc c'est vraiment la question du maintien des liens avec l'organisation pour celles et ceux qui occupent ce type de mandat. celles et ceux qui occupent ce type de mandat qui sont peu à peu considérés comme ceux qui vont donner des informations. On a besoin d'eux pour avoir des informations. Ou voir des experts. Mais on va les faire intervenir comme experts. Mais qui, quelque part, leur place dans l'organisation se déplace, hein, se modifie. Et donc, comment faire face à cela et en prendre toute la mesure, en fait. Je reviens à la première partie de la session 4. On avait aussi choisi d'ouvrir un petit peu notre questionnement. On avait demandé d'autres communications sur d'autres organisations syndicales, mais on n'a pas réussi à en susciter beaucoup. Donc, on a demandé à Michel Pigenet de nous faire un petit peu une synthèse de la façon dont, au sein de Force ouvrière, ces questions d'institutionnalisation sont pensées. Donc il s'est appuyé sur toute une série de travaux qu'il a dirigés, auxquels il a participé sur Force ouvrière, notamment dans les années 50 et puis au-delà. Alors je ne vais pas là revenir sur une façon détaillée sur sa communication qui est extrêmement riche, si ce n'est pour dire qu'il nous a incité à voir que ce rapport à l'institutionnalisation n'est pas uniforme au sein de Force ouvrière, qui varie selon les périodes, cela a modifié les relations nouées au sein de Force ouvrière par des responsables de Force ouvrière avec les représentants du patronat, la place occupée dans les institutions, une place d'ailleurs qui se renforce après 67, hein, après la mise en place du paritarisme suite aux ordonnances sur la sécurité sociale. Il nous a bien montré aussi comment finalement ça ne faisait pas complètement partie de l'héritage confédéré, hein, même s'il y a ce discours sur la présence dans les institutions, on n'a pas forcément une organisation qui était complètement prête pour jouer ce rôle-là, tel que ce rôle a été fabriqué aussi contre la CGT, par les pouvoirs publics, et comment c'est théorisé dans Force ouvrière, comment le rejet de l'intégration est théorisé au travers non pas d'une importance donnée aux luttes sociales, mais plutôt en termes de comment ça va contribuer à essayer de mettre en avant une image de Force ouvrière fondée sur le fédéralisme, fondée sur ce refus de l'intégration, alors même que c'est au centre même, hein, des pratiques des militants et des militantes, et que ça fait le gros de l'activité syndicale. Et c'est en ce sens-là que ça rejoint peut-être ce que j'évoquais tout à l'heure, l'analyse de ce politologue américain, hein, sur un syndicalisme qui tient essentiellement par sa présence dans les institutions, en fait. Pour ne pas faire trop long, juste un dernier point sur cette séance 4. Je vous disais en entrée aussi par les trajectoires individuelles, par les parcours militants. Dans la deuxième partie de la séance 4, Nicolas Simon-Poli nous a présenté une étude qu'il a pu réaliser sur le troisième concours à l'ENA. Sur l'existence de ce troisième concours qui avait été mis en place au début des années 80, qui a existé, je crois, entre 83 et 86. Et il a eu accès aux archives de ce concours. 70% des candidats étaient des syndicalistes. Et il s'est interrogé pour savoir un petit peu quel était le profil de ces syndicalistes, hein, notamment de ceux qui venaient de la CGT, et qui a réussi ce concours. Et là aussi, je vais très vite sur sa communication, il faudrait y revenir en détail, mais ce qu'il montre... Hein, c'est combien, quelque part, la logique des grands corps d'État, de la haute fonction publique, a repris le dessus, parce que ceux qui ont réussi ce concours étaient, alors peut-être que je vais trop vite, mais il me semble que c'est ce qui se dégage de sa communication, étaient des syndicalistes qui avaient suivi des études plutôt longues, hein, qui étaient des cadres dans leur activité professionnelle, tandis que des syndicalistes qui se sont formés au travers de l'activité militante... ont eu moins de réussite au concours, hein, notamment parce que dans ce concours, il y avait des épreuves qui liaient, finalement calquées sur le concours d'entrée à l'ENA, de type un oral, type culture générale. C'est pas le principe, évidemment, hein, on a eu un débat là-dessus pendant le colloque, c'est pas le principe qu'il y a un oral. Quand on est syndicaliste, on a des facilités à l'oral, évidemment, mais c'est la façon de définir ce qu'est la culture générale. La façon de le définir au travers un prisme très haute fonction publique, un prisme élitiste, en fait. Et donc, ça, c'est des épreuves qu'on ne peut pas du tout objectiver, hein, qu'on peut pas, et qui sont, évidemment, qui contribuent à faire de la sélection sociale, en fait. Donc, c'était tout à fait intéressant de revenir là-dessus au travers de sa contribution. Je vois qu'on déborde un peu le temps, donc je viens à la dernière séance, qui était, donc, derrière la valorisation du dialogue social, une autre logique de l'institutionnalisation. Donc cette séance, elle nous a conduit à déplacer un peu notre grille d'analyse sur une période plus contemporaine, essayer de voir comment les usages des différentes institutions changent, façon dont les voir la façon dont les pouvoirs publics, mais aussi les employeurs, tu le rappelais par rapport à 68, à l'après 68, investissent ces institutions et leur donnent un certain sens. Donc là, évidemment, intérêt très fort, c'est Sylvie Contrepoix notamment qui est intervenue là-dessus, sur ce qui se joue dans l'entreprise. C'est vraiment une période de renforcement de cette échelle d'institutionnalisation. Hein. Stéphane Thiroux, il parlait de micro-institutionnalisation à ce niveau-là. Montée en puissance en raison de l'importance donnée à la négociation d'entreprise et la primauté qui lui est progressivement accordée. Finalement, qui conduit à s'interroger à qu'est-ce que le syndicat à cette échelle de l'entreprise ? On voit bien qu'on n'est plus sur des conceptions du côté des employeurs hein, et des pouvoirs publics du syndicat comme contre-pouvoir, mais du syndicat comme quelque part une institution dominée hein, dans l'ordre d'entreprise, intégrée à l'ordre managérial. Hein. Et puis, réflexion aussi, bien sûr, sur la transformation au niveau national et interprofessionnel, hein, la transformation de ce qui se met en place à ce niveau-là, en termes par exemple, des accords nationaux interprofessionnels, avec l'évolution du positionnement par exemple de la CFDT sur ces questions-là, le fait que la CFDT va complètement investir à la fois hein, ce chassé-croisé où la CFDT prend la place de force ouvrière dans toute une série d'institutions, notamment dans le cadre du paritarisme, mais aussi va investir ce dialogue social entre guillemets national et interprofessionnel pour essayer de transformer les règles des relations professionnelles en France. C'est ce que montrait Mélisse Gantois dans son intervention, hein, comment à un moment donné, notamment sous la période Nota, il y a je ne veux pas le dire de façon trop abrupte, mais des convergences hein, qui se mettent en place, qui sont travaillées par la direction de la CFDT avec des représentants du patronat pour essayer de penser ensemble les transformations du système de relations professionnelles en France. Donc comment le fait que la CFDT valorise complètement l'autonomie hein, des interlocuteurs sociaux, la production de la norme via la négociation d'entreprise, ben, elle va essayer de l'obtenir en investissant ce niveau national et interprofessionnel. En fait. Et puis, d'autres interventions, notamment celle de Yolaine Gassier, qui nous aidait à réfléchir aussi à des déplacements, donc ce qui se joue dans la mise en place de ce que certains appellent, entre guillemets, là, le dialogue social territorial, notamment sur les gestions d'enjeux liés à la formation professionnelle, avec une très forte spécialisation des militants dans ces instances, souvent des militants qui viennent plutôt des instances interprofessionnelles, comme les comités régionaux, des difficultés à impliquer le reste de l'organisation, à faire savoir ce qui s'y passe, à discuter de ce qui s'y joue. Et Yolaine Gassier posait la question, finalement, comment dans ces dispositifs, on parvient à enrôler les différents participants, à leur faire partager une certaine des représentations communes. Hein, et que c'est aussi une façon de mettre en place une institutionnalisation intégration. Donc voilà peut-être pour les derniers éléments, et j'en laisse un petit peu de côté sur cette dernière session qui nous amenait vraiment à réfléchir plutôt à la période contemporaine. En fait.